Chapitre 14. Un coffret s'ouvre.
Ainsi, c'est une des âmes damnées du ténébreux,
lâcha Soriléa.
La matriarche aux cheveux blancs tourna autour de la prisonnière, l'étudiant sans frémir. De la part d'une aïeule de ce calibre, Katsuane ne s'attendait pas à autre chose, même face à ces mirages. Soriléa faisait penser à une statue longtemps exposée aux intempéries, l'image même de la patience et de la résilience. Parmi les aïeules, elle était un modèle de force, ce qui n'était pas peu dire. Membre du groupe qui avait apporté à Altor des nouvelles de Bandar et Ban, elle ne séjournait pas au camp depuis longtemps. Chez les guerriers du désert qui accompagnaient le garçon, Katsuane s'attendait à trouver bien des choses. La férocité, la dévotion à d'étranges coutumes, un sens de l'humour exacerbé, une loyauté sans faille, et une grande naïveté en matière de politique et de diplomatie. En gros, elle ne s'était pas trompée, sauf sur un point. Jamais, au grand jamais, elle ne se serait attendue à rencontrer une égale. Et sûrement pas en la personne d'une matriarche à peine capable de canaliser le pouvoir. Pourtant, c'était ainsi, comme une égale, qu'elle considérait la femme aux cheveux blancs et au visage parcheminé. Pourtant, elle ne lui faisait pas confiance. La matriarche avait ses propres objectifs, et ils ne coïncidaient pas nécessairement avec les siens. Quoi qu'il en soit, elle jugeait Soriléa compétente, et en ce monde, on trouvait très peu de gens dignes d'être qualifiés ainsi. Ces mirages tressaillirent, et Soriléa inclina la tête sur le côté. Aujourd'hui, la rejetée ne l'évitait pas dans les airs. Vêtue de sa robe marron, elle reposait sur ses pieds, les cheveux en bataille à force de ne pas être brossés. Pourtant, elle restait un parangon de supériorité et de domination. Exactement comme l'aurait été Katsuane à sa place.
« Que sont ces tissages ?»
demanda Soriléa avec un geste vers la prisonnière. Si ces mirages tressaillaient, c'était à cause de ses flux.
« Une petite astuce à moi, »
répondit Katsuane. Elle détissa les flux puis les retissa, pour bien montrer comment ça fonctionnait.
« Très régulièrement, la prisonnière est assourdie par un son aigu et aveuglée par une vive lumière. Ainsi, il lui est impossible de dormir.
Hmm, tu veux la fatiguer pour qu'elle craque, »
résuma Soriléa. Perplexe, elle étudia de nouveau la rejetée. Un bouclier l'empêchait d'entendre ce qui se disait, bien entendu. Malgré deux jours de privation de sommeil, elle restait très calme, les yeux ouverts entre deux agressions lumineuses. À l'évidence, un conditionnement mental inconnu l'aidait à s'abstraire de son propre épuisement.
« Je doute que ça la brise, »
admit Katsuane.
« En fait, ça la dérange à peine. »
La légende, Soriléa et Beir, une matriarche blanchie sous le harnais incapable de canaliser, étaient les seules personnes présentes dans la pièce. Comme toujours, les Aes Sedai qui maintenaient le bouclier de la rejetée se tenaient dans le couloir.
« Il est presque impossible de manipuler une âme damnée des ténèbres, »
dit Soriléa.
« Mais tu as raison d'essayer, si on considère tes... contraintes. »«
Nous pourrions parler au Karakarn, »
intervint Beir.
« Le convaincre de nous confier cette femme. Quelques jours d'interrogatoire à Yel, avec la délicatesse qui nous caractérise, et elle deviendrait un vrai moulin à parole. »
Katsuane eut un sourire évasif, comme si elle allait confier la prisonnière à quelqu'un d'autre. Les secrets que détenait cette femme valaient trop cher pour que quiconque les connaisse, y compris des alliés.
« Vous pourrez toujours demander, mais je doute que le garçon se laisse convaincre. Dès qu'il est question de maltraiter une femme, c'est une tête de mule. »
Beir en soupira d'agacement. Katsuane avait quelque peine à l'imaginer menant un interrogatoire délicat, mais bon.
« Oui, tu as raison, »
fit Laiel.
« Randaltor est deux fois plus têtu que le pire chef de tribu de ma connaissance, et quatre fois plus arrogant. Comment ose-t-il penser que les femmes sont moins aptes que les hommes à supporter la douleur ?»
Katsuane s'autorisa un ricanement.
« Pour être honnête, j'ai envisagé de faire fouetter cette créature, et tant pis pour les chichis du garçon. Mais je doute que ça fonctionne. Pour briser ces mirages, il faudra trouver autre chose.
Je voudrais lui parler, »
dit soudain Soriléa. Katsuane dissipa les tissages qui empêchaient la prisonnière de voir, d'entendre et de s'exprimer. La rejetée cligna des yeux, une seule fois, puis se tourna vers les deux matriarches.
« Des aïeules, bien sûr. Vous nous serviez si bien, jadis. Quel effet ça fait de trahir ces serments? S'ils savaient combien de morts leurs descendants ont sur la conscience, vos ancêtres exigeraient que vous soyez châtiés. »
Soriléa ne broncha pas. Par bribes, Katsuane savait à peu près ce que le fichu gamin avait révélé aux aïeules sur leur passé. Jadis, affirmait-il, il suivait le paradigme de la feuille. mais ils avaient renié leur engagement. Intriguée par ces rumeurs, Katsune trouva fascinant que ces mirages les corroborent.
« Elle est plus humaine que je l'aurais cru, »
dit Sorilea à Beir.
« Ses expressions, son ton et son accent sont exotiques. Mais on n'a aucun mal à comprendre. Je ne m'attendais pas à ça. »
Ce commentaire incita la prisonnière à plisser brièvement les yeux. Bizarre, ça. Une réaction plus marquée que tout ce qu'elle avait laissé filtrer jusque-là. À part les tressaillements dus aux tissages spéciaux, mais ça ne comptait pas. En revanche, une remarque pourtant banale de Sorilea semblait avoir fait mouche. Les matriarches allaient-elles réussir là où la légende avait douloureusement échoué ?
« Il faut garder ça en tête, »
dit Beir.
« Une femme est une femme, quels que soient les secrets qu'elle conserve en mémoire. Toute chair peut être tranchée, n'importe quel sang peut couler, et tous les os peuvent se briser. » « Pour être franche, Katsune Melaidrin, je suis presque déçu. »
Sorilea secoua sa crinière blanche.
« Ce monstre a de très petits crocs. »
Ses mirages ne frémit même plus. De nouveau maîtresse d'elle-même, elle lâcha.
« J'ai entendu parler de votre nouvelle notion de l'honneur, Aiel sans dignité. J'adorerais enquêter pour découvrir à quel niveau de douleur les membres de vos tribus s'abandonnent à la honte. Selon vous, jusqu'où faudrait-il que j'aille pour qu'une de vous deux tue un forgeron et le dévore ?»
Si elle connaissait le caractère sacré des forgerons dans la culture Aiel, ses mirages devaient avoir fait bien plus que d'en entendre parler. Sorilea se raidit en entendant le commentaire de la prisonnière. Mais elle n'approfondit pas. En un clin d'œil, elle refit les trois tissages qui privaient la prisonnière de ses perceptions. Faible dans le pouvoir, elle n'en apprenait pas moins très vite.
« Est-il sage de la laisser ainsi ?»
demanda-t-elle, son ton indiquant qu'elle faisait tout pour arrondir les angles face à Katsune. La légende faillit sourire devant tant de délicatesse à Yel. Comme deux vieux faucons habitués à régner sur leurs branches, les matriarches, contraintes de se percher sur un autre arbre, ne savaient plus trop sur quelle patte danser. D'autant plus que le respect et la déférence ne leur venaient pas naturellement.
« Si j'avais le choix, »
continua Sorilea,
« je lui couperais la gorge et je mettrais sa charogne à sécher au soleil. La laisser en vie, c'est comme prendre pour animal familier une vipère noire. » « Tu as raison. Il est dangereux de ne pas la tuer, »
concéda Katsune.
« Mais l'exécuter serait encore pire. Le garçon serait incapable ou refuserait de nous donner la liste des rejetés qu'il a estourbis. Pourtant, il semble qu'une bonne moitié au moins soit revenue à la vie. Lors de l'ultime bataille, ces défunts seront là. Chaque tissage que nous révélera ces mirages les privera d'une arme surprise. »
Sorilea ne parut pas convaincue, mais elle n'insista pas.
« Et l'artefact ? »
demanda-t-elle.
« Je peux le voir ?»
Katsune faillit répondre par la négative. Mais Sorilea lui avait appris le voyage, un outil extraordinairement utile. Une telle main tendue méritait une contrepartie. De plus, la légende avait besoin de travailler avec les Aiel, et celle-là plus que tout autre. Pour une femme seule, Altor était un trop gros morceau.
« Suivez-moi, »
dit Katsune, avant de se diriger vers la sortie. Les matriarches lui emboîtèrent le pas. Dans le couloir, elle ordonna aux sœurs, Deigyan et sa reine, de faire en sorte que ses mirages restent éveillés, les yeux ouverts. Il y avait peu de chances que ça réussisse, mais pour l'instant, la légende n'avait rien de mieux à proposer. Encore que, il y avait l'étrange réaction aux commentaires de Sorilea. Quelque chose comme un éclair de colère. Contrôler la rage d'une personne revenait à se donner les moyens de manipuler ses autres émotions. C'était pour ça, entre autres raisons, que Katsune tentait d'apprendre au garçon à mieux gérer sa fureur. Contrôle et colère. Qu'avait dit Sorilea pour énerver ce mirage? Qu'elle était humaine et que ça la décevait. En d'autres termes, ça insinuait que la rejetée, aux yeux de la matriarche, aurait dû être aussi pervertie qu'un myrdral ou un drakkar. Et pourquoi en aurait-il été autrement? Depuis 3000 ans, les rejetés étaient les figures centrales des ténèbres, le nec plus ultra du mystère et du mal. Dans ce contexte, il pouvait être décevant, en effet, de voir en eux des créatures très banalement humaines, des êtres mesquins bien que destructeurs. C'était en tout cas ainsi que le garçon les considérait. Avec eux, il entretenait une telle familiarité. Mais ces mirages se croyaient bien supérieurs à une humaine. Sa classe et le contrôle permanent de son environnement lui conféraient une grande puissance. Katsune secoua la tête. Une foule de problèmes à régler et si peu de temps pour le faire. Dans le couloir au mur de bois, l'odeur de la fumée, encore assez forte pour lui piquer la gorge, lui rappela le profond crétinisme du garçon. Malgré la toile de tente tendue en travers, le trou béant, en guise d'entrée, laissait passer la brise froide des nuits de printemps. Normalement, Rand et sa suite n'auraient pas dû rester ici. Mais le garçon affirmait que personne ne le chassait quand il n'avait pas envie de bouger. Ces derniers temps, il était pressé d'en arriver à l'ultime bataille, ou résigné à ne pas pouvoir se dérober. Pour atteindre sa destination, il croyait devoir se creuser un chemin entre les querelles mesquines des gens, comme un voyageur nocturne qui éventre la neige en avançant vers une auberge. Hélas, il y avait un hic. Ce gamin n'était pas prêt pour l'ultime bataille. Katsuone le sentait dans sa façon de parler, d'agir et de regarder le monde avec une expression à la fois sombre et hagarde. Si l'adolescent qu'il était encore devait affronter le ténébreux avec le sort du monde comme enjeu, l'humanité avait du souci à se faire. En compagnie des deux Aiel, la légende entra dans sa chambre, une pièce encore intacte d'où on avait une vue plongeante sur le camp. En matière de confort, elle n'avait pas été très exigeante. Un lit solide, un coffre avec une serrure et une table de toilette munie d'un miroir. Trop vieille et impatiente, elle n'avait pas besoin de plus. Le coffre était un leurre. Dedans, elle gardait quelques pièces d'or et d'autres objets sans réelle valeur. Ses biens les plus précieux, les terangréales maquillés en ornements, elle les portait sur elle, ou les rangeait dans un coffret à courrier ordinaire posé sur la table de toilette. En chaîne, cet objet était assez éraflé et fissuré pour donner l'impression d'être sans importance, mais pas abîmé au point de jurer avec ses autres affaires. Tandis que Sorilea refermait la porte, la légende désactiva le tissage de protection du coffret. Très peu d'Aes Sedai apprenaient à innover avec le pouvoir, et ça ne manquait jamais de l'étonner. Ces femmes mémorisaient des tissages usés jusqu'à la corde, si elle osait dire, sans se demander si elles ne pouvaient pas faire plus et mieux. Jouer avec le pouvoir était parfois dangereux, il fallait le reconnaître. Mais beaucoup d'extrapolations très simples ne présentaient aucun danger. Le tissage qui protégeait le coffret était du lot. Jusqu'à ces derniers temps, Katsuone avait utilisé un mélange classique de feu, d'esprit et d'air, pour détruire tout document présent dans le coffre, si un intrus tentait de l'ouvrir. Une protection efficace, mais d'une banalité accablante. Son nouveau tissage était plus fantaisiste. Katsuone, doutant que les artefacts enfermés dans le coffre puissent être détruits, les flux ne s'y attaquaient pas. Au contraire, les flux d'air, inversés pour être invisibles, jaillissaient dans la pièce pour ligoter toute personne présente alors qu'on essayait de forcer le coffre. Après, un autre flux produisait un vacarme infernal, tandis que des lumières clignotaient un peu partout. Une manière frappante de donner l'alarme. Le même phénomène se produisait si on tentait d'ouvrir, de déplacer, voire simplement de toucher le coffret avec un filament de pouvoir, si ténu soit-il. Katsuone souleva le couvercle. Toutes ces précautions n'avaient rien de superflu. Dans le coffret, les deux artefacts étaient d'une extrême dangerosité. Sorilea approcha et baissa les yeux sur ces objets. Pour commencer, une figurine d'environ 10 pouces de haut représentant un barbu qui brandissait une sphère. Enfin, un collier métallique noir et 2 bracelets, soit un Adam conçu pour un homme. Avec ce terangréal, une femme pouvait réduire un esclavage tout mâle capable de canaliser. Pas seulement dans le domaine du pouvoir, mais probablement dans tous les autres. L'artefact n'avait pas encore été essayé. Un ordre strict du garçon. Ignorant la figurine, Sorilea se focalisa sur le collier et ses bracelets.
« Cet objet est maléfique !»«
Oui. »
confirma Katsuone. Elle n'était pas encline à traiter de maléfique un simple collier, mais dans ce cas, c'était approprié.
Nineveh et Almeara prétend être familière de cette Adam. Bien que je n'ai pas pu lui faire dire d'où elle tient ce savoir, elle affirme qu'il n'existait qu'un collier conçu pour un homme, et qu'elle s'est arrangée pour qu'il sombre dans l'océan. Cela dit, elle reconnaît ne pas avoir été présente au moment où on l'y a jeté. Donc, les Seanchaniens l'ont peut-être utilisé comme modèle.
Voir cet objet est terrifiant.
Dit Sorilea.
Si une des âmes damnées des ténèbres, ou même un Seanchanien, capture Rand Altor et lui met ça autour du cou, que la lumière nous protège tous,
acheva Beir.
Et les gens qui possèdent cette horreur sont ceux avec lesquels le Karakam veut faire la paix,
lâcha Sorilea, plus que perplexe.
Le seul fait qu'ils aient inventé cette chose devrait justifier qu'on les combatte. J'ai entendu dire qu'il existe d'autres exemplaires de cet objet. Où sont-ils?
Entreposé ailleurs,
dit Katsuone en refermant le coffret.
Avec les Adam pour femmes pris à l'ennemi. Certaines de mes connaissances, des Aes Sedai retirées du monde, les étudient pour repérer leurs faiblesses.
Ces mêmes personnes travaillaient aussi sur Kalandor. Katsuone détestait ne pas avoir l'arme à portée de main, mais il restait des secrets qui devaient être découverts.
J'en ai un ici,
reprit la légende.
Parce que j'ai la ferme intention de voir comment il agit sur un homme. Hélas, le garçon refuse qu'un achaman me serve de cobaye, même quelques minutes.
Beir ne fut pas convaincu par ce projet.
Ça revient à embrocher quelqu'un pour essayer une lance, non?
Sorilea, elle, approuva la démarche. Dès qu'elle avait récupéré un Adam pour Daman, Katsuane se l'était mis autour du cou, pour explorer toutes les possibilités de s'en libérer. Bien sûr, elle avait procédé selon les règles, en présence de femmes capables de l'aider si ça tournait mal. Une saine précaution, car elles avaient dû intervenir, la légende ne réussissant pas à se défaire du collier. Quand un ennemi préparait une attaque, il fallait absolument travailler à une riposte. Tant pis si on devait se mettre en laisse. Le garçon était trop borné pour comprendre ça. Quand Katsuane lui demandait un cobaye, il perdait son sang-froid, marmonnant des imprécations sur la maudite caisse, dont on ne le sortait que pour le tabasser.
« Nous devons faire quelque chose au sujet de cet homme, »
dit Sorilea, en sondant le regard de Katsuane.
« Depuis notre dernière rencontre, il s'est détérioré. »«
Exact, »
confirma Katsuane.
« Par exemple, il n'a jamais été aussi efficace pour ignorer mon enseignement. »«
Alors, débattons, »
dit Sorilea en se tirant une chaise.
« Pour le bien de tous, il faut mettre au point un plan. »«
Pour le bien de tous, oui. »
approuva Katsuane.
« Et avant tout, pour celui du garçon. »